m'a été légèrement modifié, pas profondément, mais légèrement. C'est-à-dire qu'il était question de parler de la mystique chez Henri Corvin, en islam et dans le christianisme. Daniel Proulx va parler de la sociologie chez Henri Corvin, d'abord. Ensuite, Christian Jambé parlera de Henri Corvin, la philosophie iranienne, et de la philosophie iranienne et de la mystique, éventuellement chez Henri Corvin. Et puis, je ferai un court exposé sur Henri Corvin et la mystique sunnite. Et ensuite, la table ronde, disons, le débat pourra avoir lieu. Mais pour le moment, bon, écoutons.
Merci, M. Laurie. J'espère que tout le monde m'entend assez bien quand je parle. Donc, ça va. Donc, j'ai intitulé mon exposé. Donc, d'abord, je vais faire une lecture. J'aurais bien fait ça de manière un peu plus vivante, mais me connaissant, ça se serait perdu dans des méandres et le temps se serait dissipé, pour ceux qui me connaissent, peut-être en hiéro-histoire. Donc, le titre, je vais lire mon exposé. Ça va réduire les écarts de conduite. Donc, le titre, c'est « De la Sophia comme schème mystique chez Henri Corbin ». Donc, introduction. Okay. Qu'est-ce que la mystique chez Henri Corbin? Voilà une question dont les axes de recherche exigeraient plusieurs livres, à mon sens. Donc, le fil conducteur que j'ai choisi pour explorer ce thème, c'est la sophiologie. Sans pouvoir traiter de l'ensemble du sujet, puisque la sophiologie m'apparaît être l'aorte vitale de l'œuvre d'Henri Corbin, je vais essayer d'esquisser une relecture biblio-biographique qui fera apparaître une influence restée voilée ou rarement prise en compte, et pourtant centrale, celle de Serge Bulgakov et de Nicolas Berdiaïev. Il faut dire d'emblée que j'ai retrouvé dans les archives Henri Corbin une centaine de pages de Bulgakov traduites du russe et restées inédites, donc traduites du russe par Corbin. Donc ces traductions qui datent de 1941 et 1942, personnellement, moi je les ai reçues comme un véritable coup de barre. Donc, en prenant conscience de l'importance de Bulgakov, l'ensemble de l'œuvre de Corbin trouvait, pour moi, une nouvelle cohérence. Or, si, comme je viens de le dire, la grande partie de la conférence sera consacrée à un recadrage biblio-biographique, je jetterai tout de même un regard rapide sur la Sophia chez Bulgakov et aussi sur la Sophia jungienne, surtout par rapport au texte de la Sophia éternelle. Donc, source et influence de l'œuvre de Henri Corbin. Généralement, une double origine est identifiée comme étant la source de l'œuvre d'Henri Corbin. Mais affirmons-le d'emblée, elle n'explique que de manière inadéquate l'intérêt sophianique de Corbin. Ces deux influences sont la philosophie allemande et le protestantisme, notamment Martin Heidegger et Karl Barth. La raison principale invoquée pour parler de l'influence de ces auteurs sur Corbin, c'est qu'il fut en effet leur premier traducteur français. À cause de l'influence philosophique de Heidegger en France, les commentateurs mettent généralement l'emphase sur ce dernier et invoquent une sorte de filiation entre Corbin et Heidegger. Une traduction qui en fait, celle de Heidegger, occulte les autres, hein, celle de Barth, de Jaspers, de Conrad Martius, de Eschel, de Hamann et même de Suravarti. Donc, qu'en est-il de l'influence heideggerienne? Donc, l'influence de la pensée allemande sur l'œuvre de Corbin est indéniable. Mais cette influence est-elle heideggerienne? Notons d'abord un fait à la fois étrange et significatif pour ceux qui veulent trouver un fil conducteur entre Heidegger et Corbin. Après 1939, seulement 6 mentions explicites, et je répète, donc après 1939, seulement 6 mentions explicites à Heidegger ont été repérées dans toute l'œuvre de Corbin. Donc, certes, il y a l'entrevue effectuée avec Philippe Nemo qui aborde le passage de Heidegger à Suravarti, mais chercher des rapports d'influence textuelle entre l'œuvre de Corbin et Heidegger semble presque impossible faute de matériel adéquat. Mais parce qu'on a répété ad nauseam que Corbin est le premier traducteur de Heidegger, une sorte de filiation s'est établie. Une filiation qui explique en rien ce qui pousse, en 1930, un jeune intellectuel, diplômé de l'école des langues orientales en arabe, turc et persan, et que l'on pourrait de surcroît confondre avec un théologien protestant, à traduire un penseur allemand encore bien méconnu. L'intérêt porté par Corbin à l'œuvre de Heidegger a déjà fait couler beaucoup d'encre. Et c'est peu dire que le sujet a donné lieu à des hypothèses difficilement compatibles, voire franchement contradictoires. Certaines font de Corbin un disciple intégral de Heidegger, tandis que d'autres se limitent à des rapprochements, à des questions méthodologiques, Corbin ayant eu de cesse de revendiquer la méthode phénoménologique. Quelques polémistes, et je dis bien quelques polémistes, prétendent établir un lien entre la passion de Corbin pour la philosophie allemande et la période noire qui a vu Heidegger adhérer au nazisme. D'autres encore pensent que c'est dans le réponse au nihilisme que les deux pensées se rejoignent le plus clairement. Et si l'on pourrait continuer, on pourrait ainsi continuer vraiment encore longtemps. En fait, il y a presque autant d'avis que de textes sur la question. Toujours est-il que le recueil de 38 fut le point focal de l'attention des chercheurs, qui fait perdre de vue qu'après 39, et je le répète, on ne compte que 6 mentions à Heidegger dans toute l'œuvre d'Henri Corbin. Du moins, si vous en trouvez une 7e, faites-le moi savoir. Corbin affirme au moins à 2 reprises que ses traductions de Suravardi sont antérieures à celles de Heidegger, ce qui invalide en soi l'idée d'un passage de Heidegger à Suravardi. Ce qui est encore plus significatif de cette affirmation, c'est que Corbin réécrit sa biographie lorsqu'il affirme cela. Cette torsion biographique est énoncée comme suit, je cite, « Il m'est arrivé d'apprendre avec étonnement que je m'étais tourné vers le soufisme, que si je m'étais tourné vers le soufisme, c'est parce que j'aurais été déçu par la philosophie d'Heidegger. Cette version est complètement fausse. Mes publications de Suravardi datent de 33 et 35, mon diplôme de langue orientale de 29, ma traduction d'Heidegger paraît en 38. » Fin de citation. En fait, cela est bien connu, son premier essai de traduction de Heidegger date de 1931, publié dans Bifur, avec une préface d'Alexandre Coiré. Alors, pourquoi réorganiser ainsi sa biographie? Il semble que Corbin n'était pas satisfait de son premier essai de traduction, mais cela apparaît comme une raison superficielle. Après tout, on ne fait pas disparaître la première traduction d'un texte de Heidegger parce qu'on la trouvait moyennement bonne. Certes, on y ajoute des bémols, on explique qu'il s'agissait d'un travail de jeunesse ou de prime jeunesse, mais on ne l'efface pas. Comment comprendre ce geste, si ce n'est qu'il indique au chercheur que la racine de sa pensée n'est justement pas à chercher chez Heidegger? Rappelons aussi que l'exemplaire de Sein und Zeit de Corbin portait dans les marges de nombreuses gloses en arabe. Peut-on en déduire qu'il a lu et traduit Heidegger pour comprendre Suravardi? C'est ce que semble confirmer le passage de l'entretien avec Philippe Nemo traitant de la question. Corbin y parle d'entraînement et d'exercices préalables qui lui permettront de bien comprendre le vocabulaire de Suravardi et de Mulla Sadra. Idée corroborée par ce passage où il concède que la clé philosophique qu'utilisait Heidegger pouvait aussi servir à comprendre Suravardi. Il affirme, je cite, « Il ne s'agissait même pas de prendre Heidegger comme une clé, mais de se servir de la clé dont il s'était lui-même servi et qui était à la disposition de tout le monde. » Par cette exemplification sommaire des rapports entre Corbin et Heidegger, je vais mettre en valeur la pauvreté de l'influence proprement heideggerienne sur la pensée corbinienne. C'est pour cela aussi que ceux qui ont permis à Heidegger d'utiliser cette nouvelle clé philosophique semblent plus importants qu'Heidegger dans l'œuvre de Corbin. Philosophiquement, Diltaï, Schleiermacher pour l'aspect herméneutique et Rudolf Otto et Van der Leuve pour l'aspect phénoménologique apparaissent influencer plus profondément l'œuvre de Corbin qu'Heidegger. De plus, comme le mentionne Corbin, Husserl et Heidegger n'auraient pas été possibles sans Diltaï. Il faut ainsi arrêter de présupposer qu'il y a un rapport d'influence explicite ou une sorte de filiation entre Corbin et Heidegger. L'influence heideggerienne se résume à celle d'un philosophe découvrant un autre philosophe intéressé à des questions similaires. Alors, la filiation, si elle doit être proposée, me semble devoir prendre racine dans le commentaire final de la recension faite par Corbin du livre de Van der Leuve, Phénoménologie de la religion. Donc, dans cette recension, dans la conclusion, il écrit « Dans cet édifice, je cite, « dans cet édifice d'une phénoménologie tout à fait authentique, les thèmes et l'inspiration semblent provenir indistinctement des différents courants de la phénoménologie. Or, il est déjà loin de la Wissenschaft d'un Husserl à l'ontologie fondamentale d'un Heidegger. Est-il possible de les prendre simultanément comme assises d'un même temple ?» demande Corbin. Il semble bien d'ailleurs que l'on a affaire ici à une phénoménologie de stricte observance, beaucoup plus qu'à une anthropologie de l'existence religieuse. Mais celle-ci ne serait-elle pas l'exigence inévitable, l'aboutissement de la première? Et cette question est décisive pour le sort de la phénoménologie, nous dit Corbin dans cette recension du livre de Van der Leuve. La réception corbinienne de Heidegger est donc d'ores et déjà orientée par la quête de l'Orient de Corbin, qui se comprend alors comme une anthropologie de l'existence religieuse. Voilà aussi une préoccupation qui prépare bien le terrain de l'amitié qui liera Corbin à Iliade. La philosophie mène à l'anthropologie de l'existence religieuse. Elle doit s'ouvrir au mundus imaginalis. Sinon, je cite, la philosophia n'a plus rien à faire avec la sophia. L'omission volontaire de sa traduction de 1931, permettant à Corbin de dire qu'il traduisait sur Havardi avant Heidegger, me convainc qu'il ne faut pas chercher une raison extérieure pour expliquer le passage de Heidegger à Havardi. La courbe de la vie de Corbin doit s'expliquer en termes de pèlerinage étiquette. Car, ne dit-il pas à propos de lui-même, je cite, « Je suis à vrai dire ni un germaniste ni un orientaliste, mais un philosophe poursuivant sa quête partout où l'esprit le guide. S'il m'a guidé vers Freiburg, vers Téhéran, vers Isfahan, ces villes restent pour moi essentiellement des cités emblématiques, des symboles d'un parcours permanent. » Passons maintenant à l'influence protestante. Corbin parle de l'Allemagne comme de sa patrie philosophique. C'est dans la pensée philosophique allemande qu'il cherche une nouvelle voie d'accès à la philosophie. Il dit d'ailleurs que c'est Jean Barousi qui l'a mis sur le chemin de l'Allemagne. Lors de son premier séjour en 1930, il y rencontre Karl Löwit, avec qui il s'entretient à propos de Hamann. Et c'est important ici de noter que dès 1930, Corbin va s'entretenir avec Löwit sur Hamann. Donc, il découvre aussi Swedenborg par Albert-Marie Schmitt et Karl Barth par Theodor Siegfried. Il raconte d'ailleurs qu'après son premier séjour, je cite, « Il a l'impression que toute son éducation philosophique était à reprendre. C'est à la fois enthousiasmant et écrasant, dit-il. » Et comme nous venons de l'expliquer, la pensée allemande dans laquelle prend racine la pensée corbinienne n'est pas réductible à Heidegger. À cette tangente, il faut ajouter l'influence de la pensée protestante proprement théologique et écrire quelques mots sur l'épisode barthien. Lors de son premier séjour en Allemagne, Corbin reçoit le commentaire de Karl Barth sur l'Épître aux Romains, à propos duquel Siegfried met déjà en garde Corbin contre le formalisme pur auquel se condamnait la théologie dialectique. Ce à quoi fait probablement allusion Siegfried, c'est à l'ensemble des controverses suscitées par le dit commentaire de Karl Barth, et particulièrement au débat entre Paul Tillich et Karl Barth. En 1922, lorsque Tillich fait la recension de la deuxième édition du commentaire de l'Épître aux Romains, Tillich écrit « Cette position fondamentale s'est approfondie en une théologie dont la devise est « Dieu est Dieu ». Cela signifie que rien de conditionné, aucune chose finie, aucune culture, aucune religion et aucune théologie ne peut se soustraire au jugement divin, au non-inconditionné. Tout oui. Tout ce que l'on peut dire de positif sur les choses divines est pur paradoxe. Ça nous rappellera l'exposé de Daniel de Smet de ce matin. Est absolument irrationnel. C'est une théologie du paradoxe absolu que proclame Barth. Mais entre 1922 et l'exil américain de Paul Tillich, le fossé se creuse de plus en plus, jusqu'à la séparation radicale énoncée dans « What is wrong with the dialectic theology » en 1935. Ça le dit bien, hein? C'est quoi le problème de la théologie dialectique? Ce qui avait surtout intéressé Corbin, donc dans ce commentaire de l'Épître aux Romains, c'est les étincelles prophétiques avec lesquelles Karl Barth énonce l'impossible possibilité, le paradoxe accompli où l'infini et le fini tiennent ensemble. Problème très similaire soulevé par Kierkegaard, qui expliquerait peut-être que la revue Ich et Nunc, cofondée par Corbin, se donnait comme ascendante spirituelle à la fois Karl Barth, Kierkegaard et Dostoïevski. Or, le jeune Karl Barth, prophétiquement étincelant du commentaire de l'Épître aux Romains, produira comme œuvre de maturité une lourde et colossale dogmatique. Corbin commente ce changement radical de cap. Je cite, « Une nouvelle dogmatique? Non, vraiment, c'est pas ce que nous avions attendu et espéré. Hélas, nos illusions sont retombées de très haut. Et si ce cher Rudolf Otto avait été encore là, il aurait pu, en me prenant par la main pour me reconduire à Schleiermacher, me dire « Ne vous l'avais-je pas prédit? » Si Corbin délaisse la théologie dialectique de Karl Barth presque aussi vite qu'il s'y est intéressé, l'influence du protestantisme n'en reste pas là, car en 38-39, Corbin suppléa Alexandre Coiré et donna cours sur l'inspiration luthérienne chez Hamann et sur l'herméneutique luthérienne. Ces cours donneront lieu à la publication d'une traduction d'un texte de Hamann en 38 et à une publication posthume d'une centaine de pages de commentaires et d'analyses et de réflexions philosophiques sur le problème de l'histoire et de la parole, donc le fameux livre de Hamann et le luthéranisme publié chez Berg. Donc, ce texte-là traite particulièrement de la question du problème de parole et d'histoire. Ce texte est important, voire très important, puisqu'il donne des informations cruciales sur la conception historique et herméneutique adoptée par Corbin. Des conceptions qu'il suivront sa vie durant. Ce qui l'intéresse particulièrement, c'est l'herméneutique des religions du livre. Car l'approche textuelle protestante, voulant à la fois conserver la valeur de vérité des textes bibliques et mettre l'emphase sur le salut personnel, a été mise en face d'une obligation vraiment innovante. Ce qu'il avait cru trouver chez Barth, en fait, il le retrouve chez Hamann et les spirituels protestants. Ce qui en plus concorde chronologiquement, puisque son premier voyage en Allemagne était justement pour aller explorer les spirituels protestants, quand Baruzy l'avait envoyé un peu en Allemagne. Ainsi, sa conception de l'histoire, de l'herméneutique et des institutions ecclésiales est fortement tributaire de la théologie protestante et de la philosophie de Hamann. De plus, certaines notions récurrentes dans son œuvre, telles que la significatio passiva, lui viennent directement de ses recherches sur l'herméneutique protestante. On pourrait aussi dire que Corbin regarde avec un regard de protestant la tradition chiite, car il est vrai qu'il insiste spécialement sur la relation immédiate et personnelle qu'un croyant peut nouer avec son Dieu. En résumé, la leçon de Hamann pour Corbin est peut-être la suivante. Je cite le texte des années 30. Tant que le théologien croyant et le philologue orientaliste formeront une seule et même personne, tout ira bien. Sinon, et l'éventualité est peut-être facile à prévoir, leur dissociation rejettera d'un côté une orthodoxie rationaliste, de l'autre, un positivisme historique pur et simple. La première, ajouterons-nous, manque l'histoire tout court. Le second manque l'historicité du sujet. Ce qu'il faut mettre en parallèle avec un propos de Suravardi, mentionné par Corbin à plusieurs reprises, car pour ce dernier, une expérience mystique sans une formation philosophique préalable est en grand danger de s'égarer. Mais une philosophie qui ne tend ni n'aboutit à la réalisation spirituelle personnelle est vanité pure. Plus philosophiquement, la simultanéité de l'inconnaissance de Dieu et de la relation personnelle à Dieu se résout, d'après Corbin, je cite, par une recherche herméneutique comme ontologie de la parole. Situation qui se retrouvera exactement dans l'orthodoxie, et nous y viendrons. Nécessité de l'absence de tout intermédiaire, et en même temps, nécessité d'un intermédiaire. L'élément médiant et médiateur est déjà au cœur de la pensée corbinienne, qui est un premier pas vers la Sophia. Enfin, s'il disait de l'Allemagne qu'elle est sa patrie philosophique, il faut ajouter que Corbin avait trouvé refuge et noué une amitié particulière pour Böhm et son école. Une amitié qui ouvre une piste pour trouver la source de la Sophia dans l'œuvre de Corbin. Surtout qu'il conclut, parlant de sa déception du barthisme, qu'il y avait lieu de retrouver l'accès à la Sophia d'une autre philosophie. Cette autre philosophie, ce fut celle de Lichrach, à propos de laquelle il dit, après sa mission de 6 ans en Turquie, j'étais devenu Ishraki. Et un Ishraki est spontanément un sophiologue. Sauf que cette conclusion, qui correspond à son passage de l'Occident vers l'Orient, cache la source de sa dette spirituelle. Et j'utilise le terme de Corbin, sa dette spirituelle, qui fait apparaître le glissement entre Orient et Sophia. Dette spirituelle qu'il déclare porter à Berdiaïev. Influence de Berdiaïev et de Bulgakov. Par ses dépôts dans la pensée corbinienne, il est possible d'affirmer que l'influence du protestantisme spirituel est plus importante que l'influence heideggerienne. Ces influences aident certes à comprendre l'ambiance dans laquelle baignait Henri Corbin jusqu'en 1939 et sa conception phénoménologico-herméneutique de l'histoire, mais elle n'apporte que peu d'indices sur l'origine et l'intérêt que Corbin porte à l'angélologie, à la pensée sophianique, qui est pourtant omniprésent dans son œuvre. Qui a été le guide intellectuel de Corbin dans le monde des anges et de la Sophia? Cette question est cruciale, car cette thématique n'est pas une branche parmi d'autres, mais la sève qui irrigue son œuvre. L'Allemagne protestante est sa patrie philosophique, une patrie au sein de laquelle il a développé une amitié particulière pour Böhm et son école. Mais si l'on n'explique pas de qui provient la dette spirituelle de Corbin, il est pratiquement impossible de comprendre son attachement à la Sophia. La part des intellectuels russes fuyant la révolution bolchevique à la vie intellectuelle parisienne est substantielle. En 22 et 24, s'y installent respectivement Bulgakov et Berdiaïev. Rarement l'influence de Berdiaïev est mentionnée par les commentateurs de Corbin comme cruciale ou centrale, et ce même s'il s'agit de l'un des seuls auteurs contemporains que Corbin cite directement dans ses textes et pas uniquement dans l'appareil critique. En islam iranien, l'opus magnum de Corbin, révèle d'ailleurs l'importance qu'il accorde à Berdiaïev, puisque c'est en faisant appel à ce qu'il qualifie de la protestation la plus clairvoyante contre le péril social et la socialité envahissante qu'il introduit et conclut son opus magnum. Et donc, vraiment, au début de « En islam iranien », on trouve une citation de Berdiaïev et il conclut aussi « En islam iranien » en citant Berdiaïev. Ajoutons, comme l'affirme Corbin, que l'intrépide originalité de Berdiaïev ne permet de le rattacher à aucune école, sinon à la théosophie de Böhm, à une indication qui explicite bien la filiation spirituelle à Berdiaïev et l'intérêt qu'il porte, que Corbin porte au problème de la socialisation du spirituel. Pour reprendre une des notes de bas de page de Sourabardi d'Alep, fondateur de la doctrine illuminative, dans laquelle Corbin indique que c'est grâce à Heidegger qu'il est arrivé à la distinction entre historial et historique, il faut immédiatement ajouter que c'est avec l'œuvre de Berdiaïev qu'il en explore les conséquences. Déjà, la revue qu'avait fondée Corbin avec De Rougemont, Roland de Pury, Albert-Marie Schmitt et Roger Gézéchiel se donnait comme ascendance spirituelle Kierkegaard et Dostoïevski. On sait que la critique du social... On sait que la critique sociale et de l'Église calibrée de Dostoïevski a fortement inspiré Berdiaïev. Il suffit d'ouvrir un de ses livres pour le voir. Qu'il l'a aussi philosophiquement exploré dans son livre « L'esprit de Dostoïevski », traduit en français en 1929. Ici, la date est importante. Un événement qui concorde chronologiquement à la revendication de l'ascendance dostoïevskienne de Hic et Nunc, dont le premier numéro est publié en novembre 32. On peut ainsi se demander légitimement si la critique de l'Église que l'on pense d'abord pouvoir trouver chez Barthes ne serait pas en fait à chercher chez Dostoïevski. D'ailleurs, Barthes n'est jamais cité dans les œuvres de Corbin, tandis que Dostoïevski est mentionné à quelques reprises avec la légende du grand inquisiteur ou même directement. Plus spécifiquement, Corbin confesse en 1975, lorsqu'il devient le président de l'association Nicolas Berdiaïev, la nature de sa dette spirituelle. Dans son allocution d'ouverture, il dit, je cite, « Ce que nous lui dûmes sur cette voie, ce fut par excellence la découverte de la sophiologie, telle qu'il l'exposa dans son introduction magistrale à la traduction française du Mysterium Magnum de Böhm, et telle que le grand théologien Serge Bulgakov l'élaborait de son côté. » Fin de citation. Une affirmation de 1975 qui indique que Corbin est en un sens berdiaïevien toute sa vie. Dans cette veine, il faut aussi rappeler qu'en 1929, Coiré a publié une monumentale étude sur Böhm, qui a d'ailleurs à l'époque été recensée dès sa sortie par Berdiaïev. La découverte de Bulgakov et de la sophiologie n'est cependant pas l'apanage unique de Berdiaïev. Elle survient aussi, d'après ce que nous avons pu reconstruire, par Fritz Lieb, que Corbin rencontre pour la première fois en 1930, en Allemagne. Un homme qui était à la fois amoureux de la sophiologie et élève de Karl Barth. À ce propos, Corbin raconte, je cite, « Plus d'une fois, je lui demandais, « Comment conciliez-vous ceci et cela, mon cher Lieb? »« Oh, c'est difficile, » me répondait-il, et il en avait les larmes aux yeux. Une question demeure. Où et quand Corbin a-t-il appris le russe? N'ayant pas trouvé d'éléments permettant de répondre à la question, il est difficile de savoir exactement quand Corbin a lu pour la première fois soit Bulgakov ou Berdiaïev. Si vous avez un indice sur la chose, faites-moi signe. A-t-il d'abord lu la traduction anglaise de La Sagesse de Dieu publiée en 37, mais ce qui est déjà un peu tard? Est-ce l'orthodoxie traduite en 32 qui attire d'abord son attention? Je ne sais pas. Une chose est certaine, c'est qu'en 43 et 45, ont été publiés deux gros volumes de Bulgakov chez Aubier, donc du Verbe incarné et le Paraclet. Sauf que les dates des manuscrits retrouvés dans les archives de Corbin indiquent que c'est en 1941, lorsqu'il est à Istanbul, qu'il entreprend la traduction, et donc de trois livres de Bulgakov, donc il a choisi des chapitres dans ces trois livres-là, donc l'icône et sa vénération, l'échelle de Jacob et du buisson ardent. Donc l'intérêt pour Bulgakov n'a donc pas été suscité par les publications chez Aubier. La question qu'il faut se poser en regardant les manuscrits, c'est avait-il prévu un recueil? À mon sens, ça en avait tout l'air, car l'état des manuscrits est loin, très loin d'être brouillon. Il suffirait de mettre ça à la dactylo, puis c'est publiable tel quel. Précisons que dans les mêmes feuillets contenant les traductions des textes de Bulgakov, se trouve aussi la traduction d'un texte roumain du père Dimitri Stalinoe, Vie et enseignement de Saint Grégoire Palama. Publié, donc le texte originellement publié en 38 à Sibiu. Donc il semble que russe et roumain, et ces traductions-là du roumain sont aussi faites par Corbin, donc que russe et roumain doivent être ajoutés à l'arsenal déjà très imposant des langues que Corbin pouvait traduire. Il n'arrête pas de nous épater. Donc, influence de la sophiologie dans l'œuvre de Corbin. J'ai choisi deux points d'ancrage pour amorcer, je dis bien amorcer, l'analyse de la découverte des traductions de Bulgakov effectuées par Corbin et la réorientation biographique et thématique que cela exige. Donc, ces deux points d'ancrage sont le texte de la Sophia éternelle, publié comme réponse à la réponse à Job de Carl Gustav Jung, et le paradoxe du monothéisme. Sans une explication convenable de l'influence de Berdiaïev et Bulgakov, les problèmes exégétiques sont presque insurmontables, à mon sens. Berdiaïev et Bulgakov représentent le chaînon manquant pour comprendre l'origine et le traitement de certains thèmes centraux, comme les anges, la Sophia, le docétisme, l'incarnation ou le théophanisme. Bien évidemment, le savant Henri Corbin s'approprie ces thèmes et les remanie à partir de son immense culture. Il va sans dire que tout n'origine pas à Berdiaïev et Bulgakov. Le prophétisme, par exemple, et ça, il y aura une étude à faire là-dessus, doit énormément à Abraham Heschel, donc dans son livre « La prophétie » de 1936. La perspective sociologique de l'œuvre de Henri Corbin est l'un des thèmes qui traverse toute son œuvre. Il s'agit d'un leitmotiv. Sophiologie mazdéenne, sophiologie soufie, sophiologie chiite, sophiologie envisagée comme horizon eschatologique. Cette simple énumération donne déjà une nouvelle cohérence ou une certaine cohérence à son œuvre et permet de donner un premier versant explicatif du système de médiation qu'il élabore. Surtout que la sophiologie est le thème qui parachève son œuvre. À travers la dernière session de l'Université Saint-Jean de Jérusalem, inspirée de son vivant, je précise, intitulée « Combat pour l'âme du monde, urgence de la sophiologie ». La Sophia éternelle. Le leitmotiv de l'urgence de la sophiologie est la réponse face à la menace du social dénoncée par Berdiaïev et de la critique de la sécularisation proposée par Bulgakov. D'où la nécessité d'une nouvelle conception de Dieu qui ne soit pas sujette à la socialisation issue de nos idéologies sociopolitiques modernes qui sont la laïcisation et la sécularisation de systèmes théologiques antérieurs, dit Corbin. Donc, il cherche un système métaphysique qui permettrait une sortie de crise sans importer une solution orientale en Occident. Cela veut dire qu'il faut prendre conscience de nos choix métaphysiques en regard de ceux de l'Occident pour retrouver dans nos racines philosophiques et théologiques les éléments nécessaires à la redécouverte de l'ange et de la Sophia. Jung propose justement une réhabilitation, une réappropriation de la tradition occidentale dépassant le péril du social dans sa réponse à Job. Ici, je pense, ce qui avait grandement impressionné Corbin. Précisons que le thème de la Sophia, le point le plus vieux qu'on peut trouver, date d'un texte de 1932 qui est une petite méditation au bord du lac dans laquelle il écrit. terre, ange, femme, tout cela en une seule chose. Donc, la sophiologie, d'après cette seule phrase, ce qui est un peu bancal, mais quand même, est déjà au cœur de la recherche de Corbin. Et semble, selon moi, être sa réponse au défi posé par le nihilisme métaphysique. Sans une explication adéquate de l'influence de Berdiaïev et Bulgakov, il semble presque impossible de comprendre le commentaire monos pros monon, le commentaire seul à seul, suscité par la lecture de la réponse à Job de Jung. Une posture similaire à celle que Jung adopte lui-même pour la rédaction de sa réponse. Une posture d'un homme seul face à son âme. Un commentaire qui est aussi une défense et une prise de position en faveur de Jung. Ce qui avait choqué Corbin dans le rejet hâtif et quelquefois virulent de la réponse à Job, c'est le refus d'une âme qui cherche authentiquement et honnêtement à se réaliser. Le rejet d'une âme à l'écoute de son ange. La raison évoquée pour rejeter cette liturgie de l'âme hautement sophianique, c'est, affirme Corbin, la phrase perfide, un tel ne représente que lui-même. Or, dans le cas qui nous intéresse, cette auto-représentation de l'âme, attaquée aussi sous le couvert de psychologisme ou de subjectivisme, représente pourtant l'expression ultime de la quête de l'âme. Il s'agit de la contrepartie nécessaire de la res religiosa, explique Corbin, à savoir qu'une confession religieuse personnellement réalisée est le reflet nécessaire de l'édifice religieux. La détermination personnelle étant ce qui sophianise l'âme, la capacité de se déterminer par son âme, c'est l'âme mise en présence de ce qui s'accomplit en elle, lorsqu'il arrive et pour qu'il arrive que la figure de la Sophia se dessine à son horizon. Ce que les institutions religieuses ont rejeté dans le livre de Jung, c'est ce qui fonde véritablement le monothéisme, pense Corbin. Du moins, je pense que Corbin pense. La Sophia éternelle corrobore aussi la relecture biographique telle que je viens un peu de l'ébaucher. Corbin y écrit dans ce texte, « La réponse à Job sonne comme un étrange rappel des thèmes religieux qui, il y a une vingtaine d'années, nourrissaient de leur substance quelques jeunes philosophes théologiens en quête d'un nouvel horizon qui fut vraiment le leur. Étrange rappel, chacun de ceux-là peut en effet mesurer le chemin parcouru depuis lors par sa propre quête. Il y avait alors, pour ne nommer que ces deux voies, celle de Kierkegaard, le Job chrétien, qui attirait de jeunes philosophes protestants dans l'aventure de la subjectivité comme vérité, et il y avait la voix du père Serge Bulgakov, héros de la Sophia et de la pensée sophianique, qui, avec celle de Nicolas Berdiaïev, redécouvrait les secrets d'une tradition pour le moins négligée. » Fin de citation. Ce passage, clairement autobiographique, fait apparaître ce que Corbin avait cherché chez Barthes, c'est en fait la réponse que Jung donne à Job. Une voix qui ose énoncer une philosophie prophétique dont l'origine est l'individualité spirituelle inaliénable. Angélologie sophianique de Bulgakov. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, les archives Corbin ont gardé la trace, et j'achève, les archives Corbin ont gardé la trace d'une centaine de pages issues de trois livres de Bulgakov, donc traduits du russe par Corbin. Avant de révéler quelques pistes d'analyse qu'ouvre cette relecture, il est d'emblée évident que celle-ci commande des explorations plus systématiques. Il s'agit ici que d'une esquisse thématique, donc je vais lancer quelques thèmes par-ci par-là qui font des rapports, mais il y a vraiment un travail de fond à faire sur la question. Mais une chose qui est vraiment fascinante, c'est que la ressemblance revendicatrice de l'œuvre de Bulgakov et de Corbin est vraiment similaire. Il suffit de lire un livre de Bulgakov et vraiment, on est saisi de la ressemblance avec ceux de Corbin. Un esprit qui est vraiment similaire. Donc, j'oserais même dire que l'un et l'autre cherchent à réhabiliter la même chose, mais dans des univers spirituels différents. Brièvement, voici comment Bulgakov définit la sophiologie. Je cite. « La théanthropie est un appel dogmatique à l'ascétisme spirituel aussi bien qu'à l'activité créatrice. Pour se sauver du monde, aussi bien que pour le sauver. C'est dire que le problème central, le point de départ de la sociologie, est celui de la relation entre Dieu et le monde, ou ce qui revient au même, entre Dieu et l'homme. Fin de citation. Comment concevoir un monde encore en relation avec Dieu, et ce malgré la double attitude antinomique du sécularisme et du dualisme, décrite par Bulgakov comme empêchant notre époque de renouer avec la Sophia. Le dualisme consiste à séparer radicalement le monde humain de Dieu, par un abîme infranchissable, ce qui rend inaccessible le divin, tandis que le sécularisme consiste à recevoir le monde tel qu'il est et à s'incliner devant ses valeurs. Donc, cette double attitude dans l'œuvre de Corbin est généralement présentée à travers le prisme berzaïevien, de la socialisation et de l'incarnationnisme. Ou bien Dieu, ou bien le monde. Voilà le dilemme que tente de surmonter Bulgakov par la Sophia. Corbin, quant à lui, proposera une vision un peu plus cosmologique pour sortir de ce dilemme, à savoir la vision médiane et médiatrice du mundus imaginalis, monde proprement sophianique. Pour éviter ces dérives, Bulgakov plaide pour une compréhension ontologique de la Sophia, comme fondement essentiel de la présence de Dieu. Cette ontologisation, et je cite Corbin, reste cependant nuancée par un contexte théologique différent, plus traditionnel, mais dont la tradition englobe ce qu'ailleurs on a laissé se perdre, sinon volontairement rejeté. Mais la comparaison est encore plus explicite lorsque Bulgakov indique que l'expression même de corps spirituel, loin d'être une contradiction dans les termes ou un paradoxe, correspond à l'image première du corps dont le prototype est dans la sagesse et la gloire de Dieu. Dans cette seule citation de Bulgakov, il y a trois thèmes proprement corbiniens. D'abord, il y a le corps spirituel, thème central qui amène Corbin à élaborer et à explorer le mundus imaginalis, qui est l'espace apparitionnel du corps spirituel. Ensuite, on a l'opposition apparente entre corps et spirituel, qui soulève un paradoxe, dont la solution corbinienne est le théomonisme. Il faut relire le paradoxe du monothéisme. Mais solution donc du théomonisme de Corbin qui serait à comparer avec la solution de Bulgakov qui est le pananthéisme. Non pas panthéisme, mais pananthéisme. Ensuite, troisièmement, donc quant à la notion de gloire de Dieu, elle devrait bien sûr être comparée au Xvarna, la lumière de gloire mazdéenne, ou à toute sa tradition, sa structure dans l'Ishraq. À ce propos, Corbin écrit, et je cite, « Phénoménologiquement, nous devons, la lumière de gloire, la comprendre comme étant à la fois la lumière céleste qui constitue, nimbe et illumine l'âme, et comme l'image primordiale d'elle-même que l'âme projette, et qui est ainsi l'organe par lequel elle se montre à elle-même les choses terrestres transfigurées ou dans l'attente de la transfiguration finale. » Le thème de l'ange chez Bulgakov et Corbin entraîne aussi une série de rapprochements. Déjà, la description bulgakovienne de l'ange aurait très bien pu être de Corbin. Bulgakov nous dit « C'est un être du monde spirituel qui vit avec nous. Il partage nos destinées. Il recherche notre sentiment en retour. Cet ami nous aime. Il vit par conséquent avec nous. Sa relation avec nous est déterminée non par une mission extérieure, mais par le lien interne de l'amour qui témoigne déjà d'une union ontologique. » Fin de citation. Ce lien à l'ange, à l'alter ego comme Sizigi, ne dilue toutefois pas le moi, il l'enrichit. En fait, le personnalisme de Corbin exprimé dans sa conférence de la théologie apophatique comme antidote du nihilisme est très proche du personnalisme de Bulgakov. Car l'un comme l'autre ne peuvent accepter la dissolution de la personne dans la divinité. Un problème qu'on a pu aborder ce matin. Chercher à étendre la conscience cosmique du moi, affirme Bulgakov, conduit précisément à une dépersonnalisation, en faisant disparaître le principe même de la personne. Ce n'est pas la dissolution de l'individualité qui représente l'accomplissement spirituel, c'est plutôt la redécouverte des médiations entre l'humain et Dieu qui rend possible l'accomplissement. Car sans individualité spirituelle, il n'y a plus rien à accomplir. Le troisième réseau de comparaison pouvant être mis en lumière concerne la conception de l'image et de l'icône. À savoir que sans la Sophia, l'humain n'aurait pas accès aux beautés des mystères divins, et que sans la Sophia, le symbole ne symboliserait plus. Et que sans fonction sophianique, l'icône ne serait qu'une image d'elle-même. Bulgakov rappelle que le problème de l'iconodulie, c'est l'indistinction, je cite, entre la représentation et le représenté, l'image et l'image première, la divinité. Une indistinction qui mène au rejet de l'apophatisme et qui a servi durant des siècles un des arguments fondamentaux de l'iconoclasme, à savoir que l'honneur rendu à l'icône concerne son prototype ou son archétype, et celui qui vénère une icône vénère l'hypostase qui y est figurée, ce qui serait de l'idolâtrie. En résumé, l'argumentation iconoclaste postule que la divinité n'a pas de figure et que la non-séparabilité des deux natures du Christ fait que toute image du Christ n'est pas une image du Christ selon les deux natures. A contrario, il est cependant possible de dire que s'il n'avait pu être dépeint, il aurait cessé d'être homme, ici on parle du Christ. L'icône dépeint alors, et sans abroger la nature divine, la nature humaine du Christ. Mais les iconodules argumentent pars pro toto. Ils prennent la partie pour le tout, ce qui apparaît insuffisant face au dogme de Chalcédoine. Voilà pourquoi Bulgakov n'en reste pas aux propositions pro ou contra l'iconodulie pour trancher la question. Il déplace l'argumentation sur le terrain de l'anthropologie et de la sophiologie pour sortir des apories sans issue de la mise en opposition des propositions de l'inconnaissance et des deux natures. Donc, ce terrain de réflexion est celui du chapitre 3e de l'icône et sa vénération, un chapitre justement traduit par Corbin. Bulgakov explique, je cite, « De ce fait, pour la doctrine de l'icône, il faut non pas partir de la thèse apophatique de l'inconnaissance de Dieu, mais de celle sophiologique, selon laquelle Dieu est figurable et que le monde est configuré à son image. Dieu a tracé son image dans le créé, il est donc possible de la figurer. C'est en l'homme que l'image de Dieu s'illumine dans le monde. Il s'ensuit que le prototype du monde, la Sophie, est aussi conforme à l'homme qu'elle est anthropique. Autrement dit, la Sophie divine est l'humanité divine. Suréternel. » Fin de citation de Bulgakov. Le primat de l'apophatisme, malgré l'angélologie, est clairement défendu dans l'œuvre de Corbin, et la solution semble directement inspirée de Bulgakov. L'image est une icône, affirme Corbin, lorsque sa transparence permet au contemplateur de voir par elle au-delà d'elle, et parce que ce qui est au-delà d'elle ne peut être perçu qu'à travers elle. Tel est précisément le statut de l'image qui s'appelle forme théophanique. L'image de l'imam, l'image des 14 immaculés, a pour le fidèle chiite cette vertu théophanique. Bulgakov aurait pu ajouter, voilà pourquoi la vision imaginative, et je cite Bulgakov, regarde la chose, mais à travers elle et au-delà d'elle. Elle envoie la surchose ou la chose première, c'est-à-dire l'image noétique ou l'idée. À cet égard, l'icône est un hiéroglyphe ou un prototype idéal, non pas une répétition ou une copie d'une chose donnée, mais l'empreinte de la véritable image première qui, par la chose représentée, a un être réel dans le monde. Et pour revenir à Heidegger, cette perspective sophianique semble la seule à même d'éclairer le passage de Heidegger à Suravarti. Car pour Corbin, la présence en ce monde n'est pas une présence dont la finalité est la mort, un être pour la mort, mais un être pour au-delà de la mort, exactement comme Böhm avait écrit ou a écrit de la vie au-delà des sens.
Quelques réactions dans la salle avant de passer à la partie table ronde. Madame.
Oui, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Et juste une petite remarque et une petite question. Vous vous posez la question, comment a-t-il appris ces langues? Vous avez dit beaucoup que moi. Moi, je crois que si vous ressuscitez l'un sur les morts, en histoire d'un, vous allez l'apprendre. Et lui, il a fait de même par rapport à Bulgakov et à Berdiev. Il les a ressuscités pour comprendre leur langue. D'où l'importance pour que la sociologie avance dans notre monde, d'apprendre la langue de l'autre. Ça me paraît vraiment important.
Merci.
Et puis j'avais juste une petite question. La revue qu'il a fait avec Denis Bougemont, comment elle s'appelle ?
Ich et nunc, ici et maintenant.
Oui, merci beaucoup.
Oui, il y a des questions, des remarques. Oui, Philippe Faure.
Bon, c'est juste une petite question d'ordre historique. Je me demandais dans quelle mesure Corbin a pu être en contact avec l'Institut Saint-Serge qui, à Paris, fonctionnait déjà justement dans la période des années 30.
Une chose intéressante, dans les archives de Corbin, j'ai trouvé des lettres envoyées au père Florovski, à ne pas confondre avec Florensky. Au départ, j'étais tout enthousiaste de trouver une lettre de Florensky dans les archives, mais bien Florovski. Et donc, on sait qu'il a une petite correspondance, il y a quelques lettres envoyées à l'Institut Saint-Serge. On sait que, d'après les textes biographiques aussi, qui étaient autour du cercle de Berdiaïev, donc ça, il le mentionne à plusieurs reprises, donc, mais quelle était la relation vraiment extensive, historique, c'est vraiment une question à creuser. Les traces que j'ai pu trouver, c'est quelques lettres envoyées à l'Institut Saint-Serge. C'est ce que j'ai trouvé pour le moment.
Je peux rajouter un complément d'information qui me permet de préciser qu'elle était aussi en contact avec le théologien Paul et Document,
oui, qui était un effectivement.
Un échange de correspondance et je le voyais régulièrement.
Parmi les Russes, il ne faut pas oublier Coiré et Kojève.
Oui, tout à fait.
Coiré a écrit sur la philosophie en Russie. Alors là, ça fait tout de même un autre rayon, parce que Coiré et Kojève, on a affaire à d'autres branches de... Enfin, même Kojève, Kojève-Nikov, s'intéressait massivement à Soloviov. Et quant à Berdiaïev, c'est le Berdiaïev parisien aussi. Donc on a l'impression d'une influence russe et allemande mêlée, dont Coiré est d'ailleurs une des clés majeures. Hein? Je ne sais pas, je vous dis ça...
Une chose qu'on peut dire, c'est on a la trace que Corbin est le dernier à avoir vu Coiré sur son lit de mort. Oui. Donc déjà, on sent qu'il y a un lien important.
Coiré le nomme pour son suppléant à l'école pratique, en même temps que Kojève, que Corbin n'appelait jamais que Kojève-Nikov, par son nom de son vrai nom. Mais tout de même, il y a plus dans l'influence de Bulgakov. Encore, vous avez raison, c'est quelque chose d'essentiel, mais pour un aspect, est-ce que je vous pose la question, est-ce que la christologie, d'une part de Bulgakov, ne joue pas un rôle au moins aussi grand que sa sociologie, et deuxièmement, le fait que Bulgakov ait été un des plus importants penseurs contemporains touchant la troisième personne, c'est-à-dire la philosophie de l'esprit. L'ouvrage sur le paraclet étant un des ouvrages majeurs de théologie de la troisième personne. Est-ce que ça n'a pas joué autant que le thème de la Sophia proprement dit? La christologie de Bulgakov, c'est un peu la christologie de Corbin.
Oui, c'est ça. Donc, ce que j'allais dire, c'est l'aspect docette qu'on trouve chez Corbin quand il nous parle du christianisme est très, très proche de ce que Bulgakov fait. Ce que je dirais, c'est que Corbin enlève les références les plus nécessaire à Bulgakov pour rester, comment dire, officiellement théologien. Il retire ces quelques petites épingles-là. Et donc, il rend la théologie de Bulgakov plus ouverte, plus flexible. Ce qu'un théologien orthodoxe n'aurait pas pu accepter. Et donc, si on enlève ces éléments-là, donc nécessaires pour que tout tienne ensemble dans l'architecture dogmatique, effectivement, la christologie qu'on va trouver explicitée par Corbin là, dans le texte, là, la préface de l'Évangile de Barnabé, c'est absolument extraordinaire. Là. Donc, tout l'aspect du Christ là, comme angélophanie, on ouvre un livre de Bulgakov, et moi, la première fois, j'ai ouvert un livre de Bulgakov, mais je suis tombé en bas de ma chaise. Le nombre de parallèles est absolument incroyable. Est-ce que c'est la seule source, c'est la seule raison? Et là, il faut vraiment travailler beaucoup plus les textes, mais a priori, tout semble aller dans cette direction-là. Sur la christologie, effectivement, sur la philosophie de l'esprit, théologie de l'esprit, là, je sais pas, je m'aventerai pas.
Le livre sur le paraclet se présente, le livre de Bulgakov sur le paraclet se présente à juste titre comme une rectification historique, parce qu'il prend toute l'histoire de la troisième personne, une rectification du mépris dans lequel on tient cette thématique théologique. Or, le thème paraclétique est central chez Corbin, en particulier avec les chiites.
Il faudrait relire un des textes là, qui est le paraclet en théologie chiite. C'est un petit texte, mais ça c'est un autre versant, je ne pouvais pas tout faire. Il y a beaucoup de choses à relire à la lumière de Bulgakov. Mais une chose aussi très intéressante, c'est que tout le vocabulaire technique, souvent un peu étrange qu'on trouve chez Corbin, on se dit, mais d'où ça sort ce vocabulaire technique-là? Et on ouvre un livre de Bulgakov et tout le vocabulaire technique est pompé sur Bulgakov. Et c'est pas péjorativement, mais vraiment, c'est trop proche pour pas se poser des questions.
Bien, oui, brièvement, une dernière question.
C'est-à-dire que dans les années 60, 66, 67, on parlait de Berdiaïev pour son livre sur le sens du communisme russe. Oui. Mais c'était même un livre publié par la collection Idées, mais je ne me rappelle pas de quoi il parlait et quel sens il donnait au communisme russe à l'époque, oui, c'est-à-dire exempté, ex-post. Maintenant que nous avons Poutine qui va à l'église et qui est quand même le chef du KGB, ancien chef du KGB. Est-ce qu'il s'était trompé ou pas?
Je peux vous dire que le livre de Berdiaïev que vous citez, Le sens du communisme russe, a tout spécialement compté pour André Corbin, pour emporter témoignage direct, et qu'il, je peux citer une phrase de lui, que Berdiaïev avait eu une chance que d'autres n'ont pas, et que d'autres, le plus récent, avaient eu, d'avoir été d'abord communiste intégralement, avant d'y avoir renoncé. C'est quelque chose qui m'a toujours laissé rêveur. Cette thèse de Corbin, que l'importance de Berdiaïev, c'est qu'il avait au moins été franchement et totalement communiste, avant d'être d'un anticommunisme radical. C'est intéressant.
Oui, c'est très intéressant.
Est-ce qu'il avait fait des prévisions?
Non, mais... Carl
Gustav Jung avait dit que l'étoile blanche et l'étoile rouge, il n'allait pas se mettre d'accord.
On va laisser répondre Daniel Proulx et passer à la table ronde.
Juste mentionner une chose, là, le livre de l'acte sur l'acte créateur de Berdiaïev et son livre sur l'eschatologie, Le sens de l'eschatologie, sont deux livres essentiels pour comprendre ces dimensions-là chez Corbin. Quand on les lit, mais là, il y a le travail d'écrire le truc, là, je ne l'ai pas encore écrit, mais c'est vraiment... et c'est des livres que Corbin cite dans le texte. Comme je disais, Berdiaïev est un des rares auteurs que Corbin cite directement dans ses textes. Souvent, il nous cite un paquet de personnes qui sont décédées depuis des siècles et des siècles, mais des auteurs contemporains, il faut vraiment les chercher loin pour en trouver, et Berdiaïev est un de ceux avec Jung qui cite directement dans les textes.
Bien, merci. Christian, si tu veux bien...